Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine Ney.
Olivier, bonjour Jean-Pierre Jouyer.
Bonjour.
Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin.
Merci à vous.
Et oui, c'est Mediapolis avec donc Catherine Ney que vous venez d'entendre, toujours en direct. Une émission réalisée aujourd'hui par Jérémy Hébert, préparée comme toujours par Capucine Patouillet. Et aujourd'hui, une sorte d'émission spéciale sur le pouvoir, même si on va le saisir à travers plusieurs moments d'actualité, puisque notre invité, Jean-Pierre Jouyet, a été haut fonctionnaire, directeur du Trésor, puis secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy, puis directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui est un lieu de pouvoir très important en France. Enfin, nommé par le président François Hollande, secrétaire général de la présidence de la République, avant de devenir ambassadeur. Et il publie « L'envers du décor » aux éditions Albin Michel. Et alors, s'il y a quelqu'un qui ne doit pas adorer ni son livre, ni qu'on le reçoive ce matin, c'est bien Emmanuel Macron. Parce que ce livre pourrait s'appeler « L'anti-Macron ». C'est incroyable le nombre de défauts que vous lui prêtez ou vous laissez entendre. Ingrat, page 40, menteur, page 41, profiteur, page 43, infidèle, page 45, sans affect, page 46, égo démesuré, toujours page 46, inconséquent, page 47, ça c'est pour les défauts personnels. Et alors les défauts politiques, je vous dis pas, incapable de réformer, page 145, volatile, page 190, ne sait pas anticiper, page 233, sans autorité, page 239, laisse livre les hauts fonctionnaires à eux-mêmes, page 242, ces discours sont durés de fourrés de trop de... Je recommence. Ces discours sont fourrés de généralité. Page 243. Condescendant. Même chose. Incapable de gérer le Covid. À droite, tout. S'occupe de tout. Et ami des financiers de haut rang. Bah dites donc, vous en avez été le mentor. Vous en êtes le plus implacable des procureurs.
Non, ce que je veux dire, c'est comme j'ai reconnu ses grandes qualités aussi, quoique
dans le livre, il faut chercher.
Je l'ai connu avec ses qualités de vivacité, d'intelligence, de brio, de séduction. Tout cela a été très fort. Et après, il se trouve que il y a eu certainement pour moi une certaine rupture en termes de sensibilité qui m'a amené à avoir un certain nombre de défauts. Et comme je suis quelqu'un qui est assez sensible et affectif, je me suis retrouvé à égrener un certain nombre de défauts qui ne sont pas forcément ceux que j'ai vus, mais que pouvaient être ceux qui trouvaient que je ne les avais pas remarqués au moment voulu.
Catherine et d'autres.
Oui, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, mais on sait quand même qu'il y a chez vous comme un amour déçu, parce que vous avez cru en lui, vous l'avez beaucoup aidé, puis tout d'un coup, comme il est, Macron, vous êtes aperçu que c'était un séducteur indifférent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne lui servez plus à rien, il vous a laissé tomber, comme ça, comme il laisse tomber beaucoup de gens, et c'est dans son caractère. Ça, c'est ce que tout le monde reconnaît. Et c'est ça qui vous a blessé, non ?
Oui, c'est ça qui m'a blessé. C'est un, comme vous le dites, c'est un amour déçu. Et ça a joué beaucoup sur ce plan-là, parce que, je vous dis, je suis quelqu'un d'affectif, et le fait qu'on laisse tomber, il ne m'a pas laissé tomber, j'ai quand même été à Londres, mais ça c'est un accord entre lui et l'ancien président
oui,
de la République,
grâce à François Hollande,
ça a été fait. À l'OCDE, il y a eu beaucoup d'influence de Jean-Yves Le Drian, pour le reste, oui, c'est effectivement un amour. Je termine juste un point, c'est que, comme je le dis dans le livre, d'autres amis que nous avions en commun m'ont dit « Jean-Pierre, t'es bien le seul à ne pas l'avoir remarqué. »
Vous voulez dire que vous étiez naïf ou parce que c'était l'amour qui vous aveuglait ?
Il y avait les deux. Il y avait sans doute une part de certaines
naïveté. Ne conseille pas aux hommes politiques que Jean-Pierre Jouyet aime, et il en aime beaucoup. Jean-Pierre Jouyet est un aimant, n'est-ce pas ? C'est un aimant, un amant. je ne leur conseille pas de le décevoir, parce que sinon, ça tirera fort. Allez, on va quand même retrouver notre ami Canteloup pour aborder, après ce prologue indispensable sur les amours déçus de Jean-Pierre et Emmanuel, nous en venons au confinement.
Allez, on enchaîne avec Jean Castex, qui n'a rien annoncé de nouveau hier. Hein. Tout juste envisage-t-il un allègement du confinement le 1er décembre pour certains commerces. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Bonjour, Madame Julie. Bonjour à tous les papis et les mamies qui nous écoutent. De moins en moins nombreux, certes, à cause de la Covid.
Oui, bon, bah, sympa, oui.
Soyons positifs.
Oh là là. Alors, hier, vous avez répété ça, hein, que vous vouliez être positif.
Voilà, positif, hein, je suis ravi de partager avec vous de bonnes nouvelles.
Alors,
préparez les confettis. Alors, les commerces vont fermer encore au moins 15 jours. Aucun desserrement du confinement n'est prévu. Ouais. Les hôpitaux sont proches du point de rupture. Il fait froid. Oui,
d'accord, mais attendez, mais c'est quoi la bonne nouvelle?
Je n'en ai pas.
Ah bah dites, il fallait commencer.
Non, j'ai dit ça pour ne pas déprimer tout le monde. Dites-vous quand même que la situation ne peut pas être pire. Donc, on ne peut que remonter. Et ça, c'est positif.
Alors, vous avez annoncé que cette année, on ne pourrait pas faire de grandes fêtes pour le réveillon du nouvel an, par exemple.
Voilà, exactement. Exactement. De toute façon, se souhaiter une bonne année, on a bien vu au dernier réveillon que cela ne servait à rien. On a tous passé une année catastrophique. Se souhaiter une bonne année, une bonne santé, non, c'est trop ambitieux par les temps qui courent. Cette année, le 1er janvier, on va juste se souhaiter une bonne journée.
C'était donc Nicolas Canteloup hier matin, lendemain de la conférence de presse de Jean Castex sur Europe 1. Alors, Jean-Pierre Jouyet, il a été au pouvoir, si je puis dire. Il a été tout à côté de celui qui avait le pouvoir suprême, le président de la République. Et donc, son regard sur ces stratégies variées de confinement et déconfinement nous intéresse particulièrement dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et notre invité Jean-Pierre Jouyet, qui publie L'envers du décor aux éditions Albin Michel, ce qui intéressera tous les gens qui veulent en savoir un peu plus sur comment fonctionne l'exercice du pouvoir, qui découvriront par exemple, s'ils le connaissent déjà, et beaucoup comme moi ne savaient pas que c'était à ce point-là, l'incroyable pouvoir de l'inspection des finances, on y reviendra peut-être. Mais là, nous étions sur le confinement. Alors les Français, évidemment, beaucoup de Français, ils se disent, d'abord chez les hommes politiques d'opposition, c'est souvent « y avait qu'à, fallait qu'on », et chez les Français, c'est « pourquoi est-ce qu'on fait pas ci, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ?» Mais vous, qui connaissez les contraintes du pouvoir et les difficultés de gérer un virus invisible et imprévisible, comment est-ce que vous appréciez la gestion par le ministre de la Santé, le Premier ministre et le président de la République, Jean-Pierre Jouyet ?
Bien, je dois dire que c'est véritablement la crise la plus importante que l'on ait eue sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, qu'elle n'est pas terminée, et c'est sans doute le président de la République qui a aujourd'hui à gérer une crise qui n'est jamais arrivée aux autres présidents auparavant de par sa complexité.
Donc, il n'y a pas de jurisprudence.
Donc, il n'y a pas, vous avez raison, il n'y a pas de jurisprudence. Dans mon livre, je fais des comparaisons avec d'autres crises, mais ce ne sont pas les mêmes parce qu'il n'y a pas cet enchevêtrement de problèmes sanitaires, de problèmes économiques, de problèmes sociaux et de problèmes de fermeture, notamment d'un certain nombre de, comme vous l'avez dit, de magasins et tout. Donc, le plus important, c'est de prendre toutes les mesures qui évitent un dérapage de cette contagion. On a vu que les chiffres restaient important, et je crois que là, tout est fait, il y a des progrès qui ont été faits par rapport à la première vague. Deuxièmement, je souhaiterais m'exprimer plus sur la méthode. C'est-à-dire que je crois que là, je prends uniquement l'aspect économique, l'aspect sanitaire.
D'accord.
Sur l'aspect économique, je pense qu'il aurait fallu plus de décentralisation pour savoir quels étaient les commerces essentiels, non essentiels et tout. C'est pas la même chose. De le décider à Paris, quand vous dites le décider à Neuchâtel-en-Bray.
Ça, vous avez raison. Mais vous dites économique, mais on pourrait aussi dire sur le plan sanitaire qu'il fallait prendre en compte, parce que les dernières études montrent que les petits commerces sont très très loin d'être des lieux de contamination.
Oui, je crois que vous avez raison. C'est ça mon sujet. Je ne parle pas des bars et restaurants. Ça, ça devait être pris. Ouais. Ça devait être une mesure nationale. Ouais. Peut être pris nationalement, vous dites je ne veux pas plus d'une personne dans un commerce. Ouais. Et après, les autres doivent rentrer. Ça, c'est une mesure qui peut être prise nationalement. Troisièmement, vous pouvez dire il faut qu'il y ait et que ce soit vérifié les gestes barrières sur tel et tel aspect. Après, quatrièmement, on arrive quand même à des situations qui sont quelque peu bizarres, puisque il faut éviter, qui plus est, qu'il y ait une rupture de la concurrence pour les petits commerces. Grands, donc, vous, j'allais dire, je m'excuse de l'expression qui n'est pas très française, mais vous grillagez les grandes surfaces pour savoir si vous pouvez vendre un t-shirt à moins de 3 ans. Ça, vous y avez droit. Et le t-shirt à plus de 3 ans, vous n'y avez pas droit. Vous pouvez acheter une petite éponge, mais vous ne pouvez pas acheter une grande éponge. Bon, là, on arrive
c'est
quand
quoi,
même...
C'est quoi ? Je n'ai pas compris cette histoire de petite éponge.
Si, c'est que vous pouvez acheter certains articles dits non essentiels.
Mais peut-être pas entre petite éponge et grande éponge, quand même.
Ah, c'est ce qui m'a été rapporté.
Petite éponge, grande éponge...
On peut acheter des vêtements pour enfants, mais pas pour adultes, c'est ça ?
Oui, moins de 3 ans, vous pouvez. Et plus de 3 ans, vous ne pouvez pas. Et vous savez qui surveille ces
l'armée, ces vous n'allez pas me dire que c'est l'armée.
J'en suis pas loin, Catherine Ney.
C'est qui ?
Parce que ce sont dans un certain nombre de départements, des préfets, des sous-préfets et la police. Est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire aujourd'hui, dans un contexte où il y a des menaces terroristes importantes, où pour les Français les questions de sécurité sont tout à fait nécessaires. Et est-ce que vous croyez que c'est le rôle ? Moi, je m'excuse, je suis sans doute de l'ancien monde, mais je ne voyais pas les préfets et sous-préfets aller à Saint-Malo ou à Dinard vérifier si on vendait du plus
mais
de 3 ans,
le,
du moins de 3
c'est
ans.
C'est les délices de la bureaucratie française aussi, vous voyez ? On décide des choses.
Ce que je veux dire, c'est que en termes de méthode, autant sur le fond, je soutiens vraiment tout ce que fait le gouvernement et j'estime qu'ils font le maximum sur ce plan-là. Mais que sur la méthode, je crois que l'on pouvait décentraliser sans doute davantage et
Catherine Ney, la démocratie n'aime pas décentraliser, tout simplement.
Non, mais pas. Je reprends mon exemple des contrôles qui sont faits dans les grandes surfaces. Vous avez, je m'excuse, mais je le sais, vous avez quand même des administrations financières, sans que ce soit les préfets et les sous-préfets, qui existent dans les départements ou qui existent dans les régions. Vous pouvez très bien leur demander de le faire. Après, vous pouvez très bien demander aux préfets et sous-préfets d'être en concertation avec les élus locaux. Pour voir, je vous dis que moi j'ai vu...
On les met à toutes les sauces, les préfets, toujours, de créer des emplois, d'aller surveiller, de faire des choses.
Oui, mais là nous sommes, qui plus est, on évoque la crise sanitaire, mais nous sommes dans un contexte aussi, et on y reviendra, où les problèmes de sécurité et de lutte contre le terrorisme sont quand même très forts dans ce pays.
Et puis on nous a beaucoup dit préfet élu, mais en effet on ne le voit pas beaucoup. Alors cette semaine, il n'y a pas eu que le confinement, il y a eu aussi quelque chose que d'ailleurs il a été beaucoup pratiqué, même par le prédécesseur dont vous étiez le secrétaire général, Jean-Pierre Jouyet, qui est la commémoration. Alors est-ce que commémorer est une nécessité pour le récit national ? Est-ce que c'est un exercice obligé pour les présidents ? Comment on s'y prépare ? Vous avez vécu ça de près, vous allez nous le raconter juste après une petite pause.
Europe 1. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et nous sommes avec Jean-Pierre Jouyet qui publie chez Albin Michel L'envers du décor. Alors le décor, nous l'avons eu cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 novembre. Eh bien, le 11 novembre, on pouvait entendre la voix du président de la République.
au passé. Celui qui a redonné vie et chair aux combattants de la Grande Guerre entre au Panthéon. Sa flamme ne s'éteindra pas. Le lieutenant Maurice Genevoix entre ici avec tous ceux de 14. L'écrivain Maurice Genevoix entre ici avec toutes les figures qui habitent les mille pages de son chef-d'œuvre. Tout un peuple dressé face à l'épreuve et au tourment. Ils sont là. Avec Maurice Genevoix, entre au Panthéon un destin républicain, une existence française.
C'était donc l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et avec lui de ceux de 14. Ce mercredi, Jean-Pierre Jouyet, quand vous entendez ça, vous trouvez que c'est un peu du théâtre d'un homme qui en a fait quand il était jeune ou que c'est un exercice assez digne et nécessaire pour un président de la République ?
Non, je crois que c'est un exercice qui est digne et nécessaire pour le pays. Et qu'il est important qu'il y ait des commémorations de ce genre. Avec le prédécesseur du président de la République, nous l'avions organisé pour des résistants, pour Germaine Tillion, pour Pierre Brossolette, pour Jean Zay, pour Geneviève Antonios de Gaulle. Et je crois qu'il est très important de rappeler aux générations, aux jeunes générations, ce qui s'est passé.
Et alors dites-nous juste pour qu'on comprenne, qu'on aille un peu plus loin dans l'envers du décor, comment se passe le choix de ceux qu'on va panthéoniser ? Dernier mot, c'est le président, mais avant.
Alors là, c'est une procédure extrêmement... Enfin, ce sont des procédures extrêmement complexes, parce qu'il n'est jamais facile de choisir. Et ça ne se fait pas toujours à l'équipe de l'Élysée. C'est bien sûr le président qui décide à la fin, et c'est le président qui choisit déjà les références, que ce soit la résistance ou là, le souvenir.
Et alors, en amont,
on lui fait des propositions.
Et on fait des propositions.
Et vous discutez entre vous d'abord ou pas ou chacun y va de son côté?
Non, parce que vous avez à l'Élysée une ou deux personnes qui sont spécialisées véritablement sur la mémoire historique et sur les questions de mémorialisation.
C'est elle et elle seule, c'est ça ?
Et là, de mon temps, c'est une personne du Conseil d'État, très bien, qui réfléchissait à cela. Deuxièmement, vous associez également les militaires. Parce que, bien évidemment, que ce soit sur la résistance ou sur 1914, là, il faut
donc
que...
Donc le chef
d'état-major particulier ait également joué un rôle extrêmement important.
Et vous aviez
important.
Votre mot à dire ?
Moi, sur ce qu'étaient les résistances et les noms qui avaient été retenus, j'étais en total accord. Mais de façon,
mais vous avez exprimé votre opinion avant que je tranche, c'est ça ma question.
Non, je ne me suis pas exprimé sur le sujet avant que le président de la République
tranche. Parce
qu'il
ne vous a pas demandé votre avis, peut-être.
Parce que le président de la République n'avait pas besoin de mon avis sur ce sujet-là. Et sur ces enjeux-là. Et alors, je le comprends.
Et donc, un des aspects très importants de l'activité, de la vie d'un président de la République, c'est de faire des discours. C'est incroyable le nombre de discours que peuvent faire les présidents de la République. Il y a, je ne sais pas combien il y en a par semaine. On va écouter quelques extraits de discours de François Hollande préparés par Capucine Patouillet, juste avant d'être président et puis une fois président.
Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. C'est l'idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène internationale. Nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. Rien ne peut nous diviser. Rien ne doit nous opposer. Rien ne doit nous séparer.
Je veux dire simplement ces mots. La France sera à vos côtés. Nous rassemblerons nos forces pour apaiser les douleurs. À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes.
Donc c'était le discours du Bourget comme candidat le 22 janvier 2012, le discours du 7 janvier 2015 après les attentats de Charlie, et le discours du 27 novembre lors de l'hommage national aux Invalides. Enfin, des extraits de ces discours. Ce qui me frappe, c'est que les discours qui peuvent être assez forts, assez beaux sur des événements tragiques, finalement laissent, une fois les événements passés, peu de traces. Ce sont comme des propos, même s'ils sont beaux, même s'ils sont forts, sont des propos obligés, on n'en retient pas. Et c'est un président de la République, je ne sais pas combien de centaines de discours il prononce durant son mandat, et le temps passant, de quoi se souvient-on? Mais de si peu, de pas de 1% des propos qu'il a tenus. Et pourtant, ça occupe une place centrale. Et c'est ça que je voudrais que vous nous fassiez comprendre et apprécier, Jean-Pierre Jouyet, cette espèce d'inflation verbale pour des exercices obligés dont on se demande s'ils sont vraiment nécessaires. Vous pouvez nous dire ça juste après la pause?
Oui.
Merci beaucoup.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien directeur du Trésor, ancien ambassadeur, enfin qui a exercé toutes sortes de fonctions, Jean-Pierre Jouyet, inspecteur des finances, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi les présidents parlent tout le temps?
Je crois qu'il faut distinguer deux éléments fondamentaux. Il y a, comme vous l'avez dit, des discours qui sont des discours sur la nation ou lorsqu'il se produit de grands drames ou des discours de commémoration. Et là, il est normal que ce soit la République, par l'intermédiaire du président, qui s'exprime et que la nation s'exprime sur un certain nombre de points fondamentaux. Après, nous avons des discours où il y a beaucoup de demandes dans ce pays d'intervention du président de la République. Moi, ce qui m'a frappé dans ma carrière, c'est, je m'excuse de parler comme ça, mais vous allez inaugurer un tramway à Angers, je ne sais même pas s'il y en a un,
oui.
Mais où vous allez inaugurer quelque chose en Bretagne et tout,
oui, enfin,
on demande
tout
à ce qu'il y ait
le
c'était pas à Nantes, rassurez-vous, et à ce moment-là, on demande à ce qu'il y ait des interventions, ouais, du président. Moi, je trouve que c'est trop demandé. Et c'est là où on est dans un système où il y a trop de discours du président. Et comme vous l'avez dit, à force d'en avoir trop, ça se perd parce que le président est obligé d'aller du plus haut du symbole de la nation jusqu'à un certain détail provincial.
Alors, comme trop d'impôts tue l'impôt, trop de discours tue le discours.
Et
vous voyez, oui, sur l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, bon, on voit que le président imite un certain Malraux qui avait accueilli Jean Moulin, qui disait « Entre Jean Moulin », ça, tout le monde s'en souvient. Bon, mais De Gaulle avait laissé parler Malraux. Voyez. Et là, c'est le président qui a voulu parler sur un ton de prédicateur, très bien, mais c'était pas Malraux.
Quoi. Oui, mais c'est pas le style de Roselyne Bachelot de faire le discours d'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix de 1914.
Non, mais je vous rejoins tous les deux parce que j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, c'est le président ou qui? Et là, c'est vrai que c'était pas facile. Mais simplement, ce qui reste dans toutes les mémoires et le discours qui restera inscrit pour tous, c'est celui d'André Malraux pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon.
Mais pour beaucoup de raisons, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une entrée solennelle au Panthéon, parce que c'était Malraux, parce qu'il y avait cette espèce de talent oratoire inouï. Cette voix, entre ici Jean Moulin, avec ton cortège, donc c'était un truc incroyable. Oui. Et puis à l'image, vous aviez à côté De Gaulle. En tenue militaire, totalement immobile. Et donc le contraste entre Malraux avec ses mouvements dans tous les sens, et puis De Gaulle immobile, tout y était.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est
mais c'est pour ça qu'il faut faire ce que je vous dis, c'est qu'à mon avis, il devrait y avoir une meilleure distinction dans les discours faits par le président de la République. Mais ce que je dis aussi dans le livre, c'est que le quinquennat ne facilite pas cette affaire. Parce qu'avant, lorsque nous avions le septennat, les interventions était sans doute un peu plus rare du président et restait sur des points essentiels.
Jacques Chirac parlait
le temps.
Très peu.
Voilà, hein? il avait le temps.
Mais
et
du
on
coup,
se souvient.
Traité droit fainéant.
Oui, mais oui, on se souvient oui. du Veldiv de Jacques Chirac. Mais on se souvient de ses discours.
Il parlait pour les vœux pour le 14 juillet et entre temps, voilà. il faisait don de son silence à la France.
Et voilà. Et donc, voilà. Mais parce que là, le temps jouait. Mais comme maintenant, avec le quinquennat, les réseaux sociaux et tout, les présidents se croient obligés de parler de plus en plus. Et
parce
comme
qu'ils aiment parler.
Tous les deux. Oui, ça c'est certain qu'il faut aimer.
Emmanuel Macron, il aime parler. Ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Ça, François Hollande aussi, c'est certain. Oui, oui. Non, mais ils aiment.
Nicolas Sarkozy, pas moins.
Et ils aiment tous parler. Mais sinon, ils ne seraient pas là.
Eh ben voilà qui est dit. Alors, il y a un autre sujet qui est l'objet de controverses en ce moment, dans un pays qui les aime bien, qui est le Conseil de défense et de sécurité nationale. Puisqu'on sait que le Conseil de défense existe de très longue date. En 2009, il est devenu de défense et de sécurité nationale sous Nicolas Sarkozy. Et maintenant, il se réunit quasi au moins une fois par semaine, parfois plus, alors qu'avant, il se réunissait, je ne sais pas, moi, 10 fois par an. Parce que c'est là où sont prises, dans le fond, les décisions principales pour gérer la crise, les crises. Alors, vous avez un point de vue très critique. Tiens, ben, on va l'écouter, le point de vue critique.
Dorénavant, les conseils des ministres sont précédés d'un conseil de défense. Nous sommes nombreux à nous demander pourquoi une invention pareille a fini par se substituer à pratiquement tous les organes constitutionnels de prise de décision. Ces personnes, lorsqu'elles sont réunies en conseil de défense, sont tenues au secret défense. Autrement dit, ce conseil ne rend de compte à personne et n'informe personne des décisions qu'il a prises. Et les personnes qui le composent, étant astreint au secret défense, sont donc placés hors de tout recours devant la Haute Cour de justice. Et le gouvernement, en exécutant les décisions du Conseil de défense, est lui-même placé hors de toute responsabilité.
Tout le monde a reconnu la voix, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, à l'Assemblée nationale, mardi 3 novembre. D'accord avec lui, Jean-Pierre Jouyet ?
Non, moi je vais vous donner mon sentiment là de serviteur de l'État et d'avoir eu à gérer ces types de problématiques. Il est normal qu'il y ait un conseil de sécurité et de défense et qu'il soit soumis au secret défense et que là, il n'y ait rien qu'il transperce. Et là, il faut que ce soit là. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que sur les problèmes sanitaires, sur les problèmes qui peuvent être sociaux, économiques, là, ce n'est pas lié, je le regrette, au secret défense. Et donc, à mon avis, il devrait y avoir ce que l'on appelle sous la Ve République un conseil restreint. Et c'est du conseil restreint que dans ce conseil restreint que devraient être prises ces décisions. Et là où je suis d'accord, c'est surtout avec le président du Sénat, parce que je trouve que sur la base de ce conseil restreint, devrait y avoir un rapport à faire, et puis on devrait rencontrer le président de l'Assemblée ou les présidents des groupes parlementaires et le président du Sénat pour dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà exactement ce que je pense.
Merci beaucoup. Et ce qu'en pense Catherine Ney ?
Moi, j'en pense.
Dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Nous avons entendu Jean-Pierre Jouyet, qui donc publie L'envers du décor aux éditions Albin Michel, d'accord finalement avec le point central de la critique de Jean-Luc Mélenchon sur le Conseil de défense et de sécurité, c'est-à-dire...
Il s'est référé surtout à Gérard Larcher.
Donc d'accord avec Mélenchon, Larcher et beaucoup d'autres, sur l'abus du recours à une institution où règne le secret défense. Catherine Ney, vous partagez ce point de vue ?
Moi, je trouve que, évidemment, c'est la traduction de la prépondérance présidentielle. Mais de toute façon, à la fin, que ce soit un conseil restreint ou un conseil de défense, c'est toujours lui qui décide. Voilà. Mais alors, ce secret qui est en plus amplifié par le fait qu'on se réunissait dans une salle en sous-sol, sans fenêtre, donc un cluster possible. Dans le fond, ça pourrait être doublement masqué. Je ne sais pas quoi. Et puis maintenant, on voit qu'il remonte au salon Murat, quand ils sont plus de 20, plus de 30, parce qu'on ne peut pas. Et moi, je m'étais dit, est-ce que, en tous les cas, ceux qui participent sont tenus par un secret, le secret défense ? Et est-ce que ça ajoute à l'opacité de la conduite gouvernementale, ou selon vous, ça traduit autre chose ?
Je vais être franc avec vous. Moi, je vous ai dit que dans le principe de la Ve République, là, sur ces sujets-là, ça devait être plutôt des conseils restreints. Si ce sont des conseils qui sont tenus par le secret défense, à mon avis, cela peut aussi avoir une incidence sur les recours qui pourraient être faits contre un certain nombre de décisions. Et c'est pour cela que les commentaires personnels lors de ces conseils sont soumis au secret défense. Voilà, et là, il n'y a pas possibilité de recours ou de perquisition, comme on l'a vu.
Vous voyez
là,
à quel point le système est quand même... faussé, pour ne pas dire dégénéré. Quoi.
Mais ça, c'est la peur de la justice.
Oui, c'est
là.
Ce que. Absolument, voilà. Catherine.
Ah, mais c'est
comme il y a un abus considérable. Vous avez vu, là, que cette semaine, ont été ouvertes 4 informations judiciaires.
Mais oui.
Juges d'instruction qui vont traiter 4 affaires pour mise en danger de la volonté d'autrui, abstention volontaire d'aide à la personne, etc. 253 plaintes. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, on arrive à l'excès de recours au juge pénal, d'un côté, et du coup, les excès de secret défense pour se protéger du juge pénal ou de la Cour de justice de la République.
Là, au moins, ce ne sera ni avec Jean-Luc Mélenchon, ni avec Gérard Larcher, mais je suis d'accord, et avec Catherine Ney, et avec Olivier Duhamel. Il y a
c'était
des détournements de procédure.
C'était pas tant.
On arrive à des détournements de procédure parce qu'il y a des exagérations des différents côtés.
Alors, je voudrais en venir à un dernier sujet très important sur, dans le fond, qui nous gouverne. Mais avant, je vais faire un petit tour aux États-Unis parce que finalement, ça fait une bonne transition sur qui nous gouverne avec ce que nous signale Alice Baudry de l'Institut Montaigne. Que progressivement, tout le monde semble devoir s'y faire à cette défaite de Trump, même ses partisans les plus fidèles, même les plus à droite. Les chaînes de télévisées, même Fox News, les dirigeants du monde entier commencent à voir qu'il n'y aura pas de second mandat pour Trump. Mais dans le même temps, le doute de certains reste bien présent et il continue de s'amplifier. Parce que des organes de presse de droite très puissants reprennent le message de Trump sur les réseaux sociaux. Ce qui continue de créer une frénésie de partisans. Plongeons un instant dans le monde de la désinformation donc avec Alice. On trouve par exemple une vidéo publiée le 7 novembre de Carl Higbay, ancien responsable de l'administration de Trump et maintenant présentateur sur Newsmax, une chaîne de télé très 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 à droite. Dans cette vidéo vue plus de 19 millions de fois, Carl Higbay passe 3 minutes à déclarer une longue liste de fausses nouvelles qui jettent le doute sur le résultat de l'élection présidentielle et il martèle « restons sceptiques ». Trump lui-même est la plus grande source des informations électorales. Le président s'est à peine adressé au public depuis mardi, sauf hier brièvement sur le Covid. Son message attaquant le processus électoral est amplifié par une foule de médias et d'experts de droite sur Facebook et YouTube. Depuis le jour du scrutin, 16 des 20 publications qui ont généré le plus de visibilité sur Facebook, 16 des 20 les plus visibles qui contiennent le mot élection, ont des informations fausses ou trompeuses qui jettent le doute sur l'élection de Biden. C'est ce que révèle une analyse du Guardian réalisée avec l'outil CrowdAngle. Et parmi ces 16 publications fausses, 13 proviennent de la page officielle du président. Voilà où nous en sommes aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, dans cette grande démocratie née il y a plus de 200 ans. Voilà où nous en sommes presque 250 ans dans le président sortant battu et qui diffuse et rediffuse des fausses news relayées par les réseaux sociaux. Ça a quelque chose d'assez terrifiant quand même, me semble-t-il. Jean-Pierre Jouyet va nous en dire un mot dans un instant, puisque ça va être le début de notre réflexion sur où est le pouvoir aujourd'hui, juste après la dernière pause.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Jean-Pierre Jouyet, ancien ambassadeur à l'OCDE, ancien ambassadeur au Royaume-Uni, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, ancien directeur du Trésor, mais pas ancien, parce que toujours, avant-hier, hier, aujourd'hui et demain, inspecteur des finances. Et lorsque vous lisez son livre, pour ceux qui l'ignoreraient, vous découvrez l'importance de la chose. Vous apprendrez par exemple qu'un président de la République, dont nous ne cessons, Catherine Ney, moi et tant d'autres, de souligner depuis des décennies le pouvoir, le surpouvoir, l'extension du pouvoir, un président de la République a pu ne pas avoir le pouvoir de choisir le directeur du Trésor. Ou plus exactement, d'avoir souhaité que le directeur du Trésor de l'époque, à savoir Jouyet Jean-Pierre, ne resterait pas en fonction alors que c'était le vœu du président de l'époque, Chirac Jacques. Hallucinant quand même. Hallucinant.
Oui, mais ce n'est pas lié à l'inspection des finances.
Ah bon ?
Non, ce n'est pas lié à l'inspection des finances du tout, là.
Ah bon ?
C'est lié au fait que, justement, le directeur du Trésor doit être très très proche de son ministre. Le ministre était Nicolas Sarkozy à l'époque. Nicolas Sarkozy souhaitait changer. Donc j'ai expliqué au président de la République, Jacques Chirac, que dès lors que le ministre ne voulait un nouveau directeur du Trésor, ce qui était normal, qui avait été 4 ans, je ne pouvais pas rester à son service.
Okay.
Mais ça n'a rien à voir là, avec l'inspecteur des finances.
Et d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, donc dont acte, un point pour vous et un moins.
Nicolas Sarkozy, vous avez nommé à un poste, je ne me souviens plus, mais c'était...
D'ambassadeur.
Ambassadeur de pas grand-chose hein, à l'époque, celui-là.
C'était pas les mêmes postes d'ambassadeur que ceux que j'ai eu après.
Bon. Mais alors, vous expliquez que vous avez été chef de l'inspection des finances. Hein,
oui.
Hein, puis d'autres avant et après vous.
Oui.
Et vous expliquez que ces chefs de l'inspection des finances, ils passent leur temps à s'assurer que des inspecteurs des finances fassent une belle carrière, obtiennent très beaux postes ici, très hauts postes là, très beaux postes là. Il y a quelqu'un qui l'a dit avant vous, mais c'était Montebourg. On pensait que Montebourg, c'était de la polémique. Écoutez, Montebourg, vous, vous l'écrivez quasiment.
J'ai mis du temps à prendre le commandement effectif, ce qui est une leçon aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions, elles se prennent ailleurs. Parce que un ministre qui est, dans la Constitution, le chef de son administration, n'a pas les clés pour prendre le commandement de cette administration, dans le système actuel. Donc, en fait, ce sont les grands corps qui pilotent tout ça. Ici, vous êtes obligé de mettre un conseiller d'État, là, un inspecteur des finances. Et pourquoi ? Moi, je préférerais un syndicaliste, un entrepreneur, un universitaire. Ah non ! Finalement, tout ce système qui a une culture politique et économique, finalement, de l'abandon du pays, pour moi, ce sont les éléments de la débâcle.
Et c'était très récemment, hein, c'était invité par Patrick Cohen dans Europe Midi, vendredi 6 novembre dernier, c'est pour illustrer ce point que je voulais traiter.
Oui. Enfin, c'est ce qu'il disait quand il était ministre des Finances aussi, il n'arrêtait pas d'en parler, de ce thème-là.
Oui, mais je dirais, Jouyet confirme.
Non, ce que Jouyet dit, c'est que vous avez des chefs de l'inspection des Finances qui s'intéressent à la carrière des jeunes et tout, parce qu'ils sont au service de l'État et qu'ils suivent cela. Et moi, il se trouve que c'était mon tempérament, parce que j'aime les relations personnelles et parce que j'aime aider les gens dans leurs fonctions. Et aujourd'hui encore, il y en a certains qui font appel à moi pour que je puisse les aider. Bon, ça c'est un point.
Comme vous avez aidé Emmanuel Macron.
Comme j'ai aidé Emmanuel Macron.
Mais ça n'a pas un petit côté Corleone.
Non mais attendez, j'ai pas terminé. Deuxièmement, si le ministre, c'est là où je suis pas d'accord, si le ministre de l'économie et des finances ou si le premier ministre ou si d'autres ne sont pas d'accord, eh bien on renvoie le chef du service de l'inspection des finances. Ça c'est fait, on en change et on met quelqu'un d'autre. Troisièmement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays, dans ce que dit Montebourg? Et là, personne n'a encore trouvé la solution. C'est que pour aller du public au privé et passer du privé au public en France, c'est beaucoup plus dur qu'au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus dur que dans les autres démocraties européennes.
Pourquoi? Et pourtant, c'est décrié.
Parce qu'on vous met des règles de oui, déontologie,
ans, oui.
on vous interdit pendant 3 ans d'aller... Vous pouvez pas... Moi, j'en ai été victime, donc je le sais. Et donc, à ce moment-là...
Oui, victime en même temps. Oui,
non, mais je remercie l'État tout au long de mon livre de ce qu'il m'a permis de faire.
Et ça, je le dis.
Mais ce que je veux vous dire, je vous explique pourquoi il n'y a pas cette mobilité. Dernier point, c'est que les administrations en France fonctionnent, et on le voit, y compris dans la crise actuelle, fonctionnent trop en silo. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'échanges d'informations ou d'échanges de fonctionnaires. On parlait des contrôles tout à l'heure.
Et même ministre. Et qui
devrait aller d'un endroit à un autre.
Ça,
par exemple, au ministère de la Santé, si on avait voulu construire davantage de lits et tout ça entre la première et la seconde phase, on aurait pu dire à des gens de venir de l'équipement ou on aurait pu dire à des gens des finances de venir pour voir comment est-ce qu'on payait ses lits et voilà.
c'est vrai, le ministère de la Santé, tout ce qui est santé, c'est un empilement de centres de décision qui fait que tout est bloqué.
Oui.
Mais au-delà, dans le fond, il conclut son livre, et on va conclure l'émission sur ce point, vous faites un tableau final, ou en tout cas une conclusion assez sombre, puisque vous dites que dans le fond, cet État français, qui a été quand même une marque de la force de notre pays pendant très longtemps, il est très affaibli, vous dites même il est vermoulu.
Je crois que c'est compte tenu des changements qui sont intervenus avec le quinquennat, avec les réseaux sociaux, je crois que véritablement l'État qui a été une force de la France doit être réformé. C'était un des engagements d'Emmanuel Macron en 2017. Il faut qu'il y ait cette réforme de l'État.
Merci infiniment Jean-Pierre Jouyet, auteur de L'Envers du Décor. Et puis, on va maintenant passer avec l'ami Mariotte qui reçoit, je crois, la grande Hélène Darroze.
Oui, bonjour Laurent.
Bonjour Catherine et bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, on vous emmène récolter, sécher le piment d'Espelette dans l'arrière-pays basque. Et puis, venez nous voir avec un morceau de pain aussi. On va saucer, on va faire un cours spécial sauce avec des leçons en pas à pas. Et nous recevrons la chef Hélène Darroze. Voilà, à tout de suite.
À tout de suite, Laurent.